Alors revenons au mot de Jean. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29. Enfin, c'est vrai que parfois religieusement, on a entendu cette expression, mais reprenons-le, réapproprions-nous cette dimension. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Réapproprions-nous cette phrase qui fut énoncée comme un rituel, mais réapproprions-nous comme une parole de vie. Il est l'agneau qui ôte notre péché. Amen. Sa mort est venue pour ôter notre péché. L'agneau est le symbole de la fragilité, le symbole aussi de la douceur. Jésus est doux, doux et humble de cœur. Il est un agneau. Vous pouvez prendre l'agneau dans vos mains, dans vos bras, l'agneau de Dieu. Imaginez de prendre l'agneau de Dieu, doux et humble de cœur, et il vient comme terrasser le péché qui vous a séparé de Dieu. Cet anneau vient pour enlever le péché. Ce péché qui est une force destructrice, qui se dresse et qui dresse le monde contre Dieu. L'agneau de Dieu est venu les gommer, effacer ce péché. Dieu n'a pas envoyé le Fils pour corriger avec le fer le monde, il est venu nous envoyer l'agneau. Jean l'avait saisi. C'est pourquoi la puissance de lui l'avait revêtu. La puissance de l'Esprit de lui l'avait revêtu parce qu'il saisissait, il comprenait spirituellement qui était Jésus. À la différence de Marc qui attribuait à Jean la proclamation d'un baptême de conversion en vue du pardon des péchés, Jean, donc l'apôtre Jean, souligne le ministère de Christ, dont la mission est d'enlever le péché du monde. Jean va revenir à deux reprises sur cet aspect. Ce n'est donc pas rien que de souligner à deux reprises il est l'agneau de Dieu. Ouais. Jésus est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui est l'agneau du sacrifice. Le serviteur comparé à un agneau. On peut lire Ésaïe 53, 7. Parce que tout cela n'est pas anodin. Parce que Ésaïe l'avait annoncé, avait annoncé lui-même l'agneau de Dieu. Et on peut peut-être le relire pour nous. Ésaïe chapitre 53, verset 7.
Il a été mal fait, il s'est humilié, et n'a pas ouvert la table, pareil à un agneau, condamné à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche.
Tout est dit, tout est prophétisé. Et je suis convaincu que Jean-Baptiste savait qu'il est l'agneau que l'on va mener à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste pressentait le sacrifice qui allait s'opérer au travers de la venue de Jésus. C'est extrêmement édifiant ce passage. C'est extrêmement interpellant pour nous. Jean-Baptiste savait quelle était la destinée de Jésus. Voici l'agneau de Dieu, car il voit en esprit qu'il est celui qui va donner sa vie en rançon de plusieurs. Pour enlever le péché, il fallait un sacrifice supérieur à tous les sacrifices. Jean est de culture juive. Il sait quelle est la tradition des sacrifices qui sont offerts pour enlever le péché. Mais voici l'agneau de Dieu, le véritable agneau, celui qui va remplacer tous les sacrifices et qui va prendre notre péché. Jésus n'est donc pas le redoutable Messie venu régner sur Israël, écraser les ennemis d'Israël, mais il est venu pour racheter les cœurs déchus, les cœurs rebelles, sauver ceux qui sont perdus, ramener les cœurs au Père. Et tout ça est édifiant. Car dès le prologue de Jean, tout est dit sur celui qui est véritablement le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu, venu en chair, afin que soit manifesté l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse pas. Jean devait l'annoncer et finir son ministère en diminuant, en s'effaçant, après avoir proclamé le chemin qu'il fallait suivre. Et son ministère commence à diminuer dès que les disciples qui l'accompagnaient ont emboîté le chemin de Jésus. Son ministère diminua. Et le ministère de Jésus commence. Le ministère de Jean était éphémère. Il n'a pas duré beaucoup de temps. Il préparait la route du véritable sauveur d'Israël. Jean avait fait des disciples et ses disciples n'allaient plus l'accompagner. Ils étaient appelés à suivre le véritable sauveur. Le ministère de Jean diminua dès que Jésus est entré en scène. Deux disciples vont le comprendre immédiatement, André et Jean. Le lendemain encore, c'est le récit que l'on trouve dans l'évangile de Jean, le lendemain encore, Jean se tint là, et deux de ses disciples, et regardant Jésus qui marchait, il dit, donc c'est Jean qui s'exprime, Jean-Baptiste, il dit, « Voici l'agneau de Dieu !» Et les deux disciples l'entendirent parler, et suivirent Jésus. Et Jésus, se retournant et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous ?» Et lui dirent, « Mais, il est merci. » Et Jésus leur dit, « Venez, et voyez. » Ils allèrent donc, et virent où Jésus demeurait. Jean, André, demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Et c'était environ, tous les détails sont importants, la 10e heure. Jean 1, 35, 40. Ouais, et demeurèrent auprès de Jésus. À mon avis, il n'y avait pas d'habitat, pas de maison, il n'y avait rien. Mais voilà, il se dit, mais finalement, ça ne change pas de celui qui crie dans le désert, qui n'a pas de lieu pour dormir, on rejoint le même, on pensait être dans une maison, mais non, on est avec Jésus, et Jésus n'a pas de domicile particulier, n'a pas de maison. Mais ils demeurèrent auprès de lui. Amen. Et ils allaient être remplis du Saint-Esprit. Alors, les disciples Jean et André furent interpellés par cette dimension de l'agneau de Dieu. Et cela ne fait pas de doute. Ils sont intrigués. Jean et André sont intrigués. Mais dans leur cœur, ils savent. Jésus est le Messie d'Israël. Jean-Baptiste l'avait témoigné. André interpella son frère Simon que Jésus nomma Céphas. J'aime ce passage où il est écrit que Jésus le regarda. Et alors là, je me suis plongé dans les Écritures en me disant, mais, oh, mais qu'est-ce que ça veut dire, regarder ? Et là, j'ai fait une découverte. Ce que signifie que Jésus lui donna de l'attention. Mais bien plus, les amis, que de l'attention. Là encore, le terme grec qui est utilisé est emblepo. Or, emblepo signifie également, écoutez bien, en grec, je ne l'ai pas inventé, regardez avec l'esprit. Jésus les regarde avec l'esprit. Voir avec l'esprit, ça veut dire percevoir, considérer. Après l'avoir regardé avec l'esprit et après l'avoir vu avec l'esprit, Jésus appela Pierre Céphas. Ce qui veut dire en grec le roc. C'est pas la gentille pierre, hein? C'est le roc. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ce terme de emblento est utilisé dans Jean 1, 36, chapitre 1, verset 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire que Jean-Baptiste, ayant regardé, c'est le même terme, emblempo, qui est utilisé, Jean-Baptiste discerna avec l'esprit celui qui passait et qui est l'agneau de Dieu. C'est le même mot. C'est donc pas regarder, vous savez, comme voir quelqu'un qui passe. Je regarde, mais je regarde, ce n'est pas le regarder, c'est pas regarder mon frère, avec l'esprit. Regarder, c'est donner de l'attention, c'est une écoute, c'est considérer et c'est discerner ici dans l'expression qui est utilisée. Et nous pouvons aussi percevoir avec les yeux de l'esprit, voir avec les yeux de l'esprit en quelque sorte. Amen. Voir avec les yeux de l'esprit. Quand Jésus se rendit en Galilée, il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Là aussi, autre mot édifiant en grec, car ici, voyant venir Philippe, il est écrit en réalité que Jésus discerna. Et en fait, en voyant, il discernait. Et c'est le terme grec eido. Le même mot est utilisé dans le contexte de ce verset, Jean 1, 48. D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe l'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Eido. Jésus discerne ceux qu'il a appelés à suivre comme disciples. Vous comprenez? Et je voudrais vous dire que je n'ai pas tapé ce texte en quoi que ce soit. J'ai passé 6 heures, 7 heures à méditer, à relire. C'est pour ça que je me réjouis. Parce que je me dis, mais le Seigneur veut nous apprendre à méditer les Écritures. D'accord? Et donc quand on prie, quand on médite à sa parole, je dis merci Seigneur que le temps m'a été donné pour méditer sur notre Dieu, car c'est tout aussi important que d'aller prendre soin de ses frères, que de méditer les Écritures, pour transmettre auprès de ses frères. Vous savez, l'appel qui a été donné à Pierre, t'es mes brebis. Nourris mes brebis. Prends soin de mes brebis. C'est un appel pastoral. Et le Seigneur nous dit, ben voilà, il est important d'avoir une nourriture, de se sentir maintenant nourri par l'Esprit Saint. Les rencontres donc avec ceux qui allaient devenir ses disciples n'étaient donc pas hasardeuses, pas fortuites. Les disciples étaient appelés. Parfois Jésus, dans ce prologue de Jean, va souligner un trait fort de la personnalité de chacun. S'approchant de Nathanaël, voici ce que Jésus dit de Nathanaël. Il n'y a point de probe chez Nathanaël. S'approchant de Pierre, il va dire de Pierre, c'est le roc. Il voit le roc. Lui, le roc, quand tout disparaîtra avec fracas. 2 Pierre 3:10. Tout disparaîtra avec fracas, mais Pierre, tu es le roc. L'Église, c'est le roc. Avant l'avènement du Seigneur. Amen. Le roc inébranlable. Pas l'Église prostituée, celle qui est immorale, celle qui est impure. Mais toutes les Églises sont concernées par l'impureté. Mais celle qui demeure dans la parole de Christ, et qui aime Christ, et qui est dans une relation intime avec Christ, c'est celle-là qui est le roc. Et nous sommes les rocs pour nos frères lorsque nous sommes fondés dans la parole, et que nous aimons la parole, et que nous la méditons au-dedans de nous. Notez que l'appel est accompagné de cette dimension spirituelle qui fait voir que les disciples reconnaissent que Jésus est l'agneau de Dieu. André, Jean reconnaissent qu'il est l'agneau de Dieu et ils suivent l'agneau de Dieu. Ou bien d'autres vont l'appeler le Messie ou celui qui est véritablement le Fils de Dieu. Et c'est Nathanaël qui l'appelle le Fils de Dieu. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager. Pour être dans le temps et pour te permettre, Michel, d'engager le chapitre 3. Le chapitre 2, c'est ça. Le chapitre 2.
J'ai préparé pour ce soir, je vais relire le premier chapitre. mais j'ai arrêté à le verset 25,
ouais.
Parce que les personnes envoyées par la pharisienne a dit à Jean-Baptiste, pourquoi donc tu baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni l'Élie,
ouais.
ni le prophète,
ouais.
Et je pose à moi-même la question, qu'est-ce que la signification de le baptême
ouais.
à ce moment-là pour la pharisienne? Parce que pour la pharisienne, ce n'est pas un baptême de repentance, c'est un baptême
purification,
c'est un rituel.
Right.
Mm-hmm.
Right.
Et j'ai posé, j'ai arrêté là pour réfléchir. Nous avons dit qu'il est Jean-Baptiste, mais qu'est-ce que c'est la signification de le baptême?
Parce que ce n'est pas tout à fait effectivement le même baptême,
non.
Que ceux qui avaient été baptisés dans le Jean ont vécu un deuxième baptême. Hein, mm-hmm. C'est bien ça, hein. Tu ne comprends pas, Michel? Je crois qu'il y a un passage dans les Actes des Apôtres où ceux qui avaient été baptisés par Jean pourraient vérifier et contrôler ce que je dis parce que je ne veux pas l'affirmer. Pas qu'ils ont été rebaptisés ensuite, parce que c'est important ce que tu dis. Est-ce que c'est un rituel ou est-ce que c'est le baptême? Mais pour moi, il s'agit bien d'un baptême qui appelait parce qu'il appelait la repentance.
Oui, maintenant, oui, mais à cette époque, à ce moment-là, pourquoi c'est important pour la pharisienne
oui.
de savoir pourquoi Jean baptise.
Ouais. Ouais, parce qu'il n'était pas en droit de le faire.
Parce qu'il n'a pas le droit de le faire. Ouais,
seul.
Donc, qu'est-ce que c'est la signification?
Ouais. C'était même choquant. Tu as bien fait de le dire. C'était choquant pour les pharisiens de savoir que lui prenait ce rôle-là. Et qu'est-ce que cela signifiait? Donc, c'était très intriguant, très interpellant. Il était même... Il transgressait, je dirais, finalement, un appel qui ne devait pas être le sien. Ce n'était pas à lui de le faire. C'était le Messie qui devait le faire.
Soit le Messie,
ouais.
soit Élie,
soit
un prophète.
Ouais. Mais lui, pas lui.
Pas lui.
Pas lui. C'est un trigon. Et l'Esprit de Dieu était sur lui.
Ah. Ça, c'est
la formule spirituelle.
C'est pas
mais l'interpellation.
Je parle un peu de ça.
Ouais.
C'est... La question
que
m'a arrêté
ouais.
était pourquoi
ouais.
c'était important
ouais.
à ce moment-là pour ouais. les pharisiennes
ouais.
de savoir qui est Jean-Baptiste, qui
ouais.
est Jean.
Ah. Je dois par honnêteté te dire que je n'ai pas médité sur ce passage-là parce que j'ai vu que cela pouvait poser question et je n'avais pas forcément la réponse. Par rapport à ça, ça vaudrait le coup de méditer sur ce passage. Pour le comprendre. Alors, si tu veux, la tentation est de dire qu'il était de l'école des Esséniens. D'accord et lui-même était Essénien. Mais est-ce que c'est une bonne réponse? Et donc, une dérive du judaïsme pharisien, tu vois puriste. Ouais. Et les Esséniens étaient certainement très proches.
C'est un certain détail, pour moi, c'est que les judaïs sont en abattu sur les dix années, et donc...
Alors, alors, ce que j'ai comme, comme explication dans l'annotation de ma Bible, je vous le dis, hein, parce que, donc ça veut dire qu'il y en a qui ont pensé aussi, je ne l'ai pas repris, d'accord. Dans Jean 1, 25-26, donc Jean baptisait les Juifs, les Esséniens, une secte du judaïsme, prenant une vie monacale, stricte, pratiquaient le baptême de purification. Mais normalement, le baptême était réservé aux non-juifs lorsqu'ils se convertissaient au judaïsme. Quand les pharisiens mettent en cause l'autorité de Jean concernant le baptême, ils demandent en fait qui lui a donné le droit de traiter le peuple de Dieu comme de non-croyants. C'est extraordinaire, ça, c'est intéressant. En répondant « Je baptise d'eau », Jean indique qu'il aide le peuple à accomplir un acte de repentance symbolique. Donc ça rejoint ce que j'avais partagé. Mais bientôt viendra celui qui pourra vraiment pardonner les péchés du peuple. Ce sera le Fils de Dieu, le Messie, car lui seul dispose de ce pouvoir. Et Jésus nous donne ce pouvoir de le faire en son nom, puisque c'est en son nom que nous baptisons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc par délégation, nous recevons la même mission que Jésus, si nous sommes revêtus de lui, la même mission de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je pense que l'explication est d'une grande clarté par rapport à la question que tu poses.
Oui.
Alors, je reprends l'explication. Il faut bien ouvrir ses oreilles, bien écouter ce qui a été dit. Il était dit que les Esséniens pratiquaient le baptême auprès des non-juifs. D'accord ? Baptême de conversion. C'est bien, je suis d'accord avec ce que j'ai dit.
Convertissement.
Voilà. Pourquoi Jean-Baptiste baptise des Juifs alors que ce baptême était le baptême de conversion de non-croyants? C'est ça qui est important et c'est ça qui est intrigant et c'est la question que formulait notre frère Graham. Et je n'avais pas médité sur le sujet, donc je reprends texto le texte qui est donné. Je trouve ça pertinent. Et c'est pour ça qu'effectivement, il devançait, au fond, c'est spirituellement qu'il nous faut comprendre ça, il devance Jésus pour annoncer celui qui a tout pouvoir de le faire, le Messie. Donc, il y a quelque chose d'inédit dans la tradition judaïque. On baptise des Juifs alors que ces derniers ne devaient pas l'être. C'est un signe spirituel qui est adressé à tout le peuple juif. Il est là, l'agneau de Dieu, celui qui a le pouvoir d'ôter le péché du monde. Il est là, l'agneau de Dieu. Lui, ce baptême rituel a une autre symbolique, a une autre signification au travers de l'acte qu'entreprend Jean-Baptiste. Oui. Voilà.
Et aussi,
c'est plus éclairant.
Oui. Merci, Eric. Et aussi, j'ai lu que les pharisiens eux-mêmes, s'ils sont devenus impurs, oui, ils doivent être passés par une forme de baptême pour une purification avant ils peuvent reprendre le travail à la synagogue. Oui. Dans le temple. Oui. Donc c'est un rituel pour eux aussi. C'est une petite question.
Non, mais la question était très importante. Il aurait été dommage de l'occulter, parce que ça nous permet aussi de comprendre, c'est à nous aussi de transmettre également auprès des autres. D'ailleurs, vous avez noté que Jésus, ses disciples baptisent.
Oui.
Parce que Jésus leur a donné
le pouvoir. Le pouvoir.
Ah non, pas du tout, pas du tout.
Il a dit, viens à le Seigneur qui est le qui est vivant, qui le c'est lui. Son confession de foi a fait des choses.
Absolument, c'est la confession, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est la confession de foi, et d'ailleurs dans mon esprit, Pierre est un apôtre, mais il n'a pas, il n'y a pas de degré hiérarchique entre les apôtres, puisque c'est Jacques qui présidait l'église de Jérusalem. C'est juste une mauvaise lecture, une interprétation tout à fait faussée et biaisée, que j'ajusterai notre propos, il n'y a aucun souci. Parce que c'est trahir les Écritures et le sens des Écritures. Et quand on lit ce que Jésus dit à Pierre, c'est juste un appel pour nous tous d'être ici en capacité à nourrir, à prendre soin et à paître les troupeaux. Nous avons ici cette charge qui nous est donnée à nous tous. D'accord ? Que ce soit une grande assemblée ou une petite assemblée, ou plusieurs assemblées que nous aurions à gérer, bien, c'est la même chance qu'il nous a donnée. Donc il faut répondre à cet appel que Jésus nous donne. Il faut revenir au Christ, revenir à l'Écriture. Ce dimanche, je vous l'annonce, je vais parler donc de la pureté dans l'Église. De revenir à la dimension de la pureté. Et ça revêt plein de significations. C'est non seulement, je dirais, la pureté au sens, à notre cœur, mais la pureté qui touche aussi au domaine de l'esprit, à notre esprit, d'accord. Et ça va aller très très loin, c'est une vraie méditation, et c'est dans le plongement de ce que nous avons vu. Oui. Ah, merci, c'est bien.
Thank you. Jonathan.
Il y a eu de la peine.
C'est très important dans les pays de la
peine.
C'est un signe. Je connais que c'est assez répandu sur la bâton de tout. C'est ça, l'important.
Oui, oui, oui.
Ça dit tout, moins je ne dis pas.
Tes références sur le passage. Voilà. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, voilà. C'est important de vérifier hein, comme être... pour ne pas dire n'importe quoi, et pour fonder, se fonder sur les Écritures, il y a donc bien eu deux baptêmes. C'est dans les actes. Donc il y avait un baptême de repentance, mais être baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est autre chose. Donc ceux qui n'ont pas été baptisés au nom de Jésus doivent être rebaptisés au nom de Jésus. Et pour avoir conscience, il faut avoir conscience de son baptême. Parce que si tu n'as pas eu conscience de son baptême, c'est pas un baptême. Pour que tu aies entendu le nom de Jésus. C'est au fond ton nom que je suis baptisé.
Je suis à l'heure, hein. C'est moi qui pose la question.
Mais tu fais bien d'avoir posé cette question parce que ça nous a permis, je tiens, il y a un complément, il y a quelque chose d'ajouter. Merci pour la référence. Acte 19. Acte 2.